Une ville, 6 candidats. Suivez les élections municipales ailleurs avec Radio Côte-Varoise et Var Matin. Du 2 au 9 mars, découvrez les femmes et les hommes à travers leurs programmes, leurs projets et leurs envies pour hier. Alors, qui sera votre prochain maire? Une ville, 6 candidats sur Radio Côte-Varoise avec Mickaël Martinez et François Leval.
Le retour de nos rendez-vous autour de l'élection municipale ici ailleurs en collaboration avec Var Matin sur Radio Côte-Varoise. Mickaël Martinez à mes côtés. Mickaël, bonjour.
Bonjour François.
Responsable de l'agence Var Matin de hier.
Tout à fait.
Et directeur adjoint à la parution de Var Matin Grand Toulon, la grande édition de Saint-Cyr au Lavandou. Alors nous poursuivons l'accueil de tous les candidats pour les élections municipales ailleurs. Nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Massucaud aujourd'hui sur Radio Côte-Varoise avec Var Matin. Bonjour monsieur.
Bonjour à vous.
Bonjour. Vous avez 48 ans.
49.
49, autant pour moi, 49, avocat de profession.
Exactement.
Vous êtes trésorier du Parti Radical Varois, actuellement élu de l'opposition ici ailleurs. Avec vous, eh bien, on va soulever des thèmes, des questions que nous allons vous poser sur différents thèmes, la sécurité, l'urbanisme, l'attractivité de la ville, le commerce, la santé et l'environnement. Le temps de parole qui vous est imparti comme tous les candidats et candidates, c'est 15 minutes. Je sais que vous aimez beaucoup parler, donc je vais vous demander des réponses un peu concises pour qu'on ait le temps de tout traiter. Hein. Et Mickaël, on commence par le thème de la sécurité.
Voilà, alors c'est une priorité hier en particulier, en général en France pour les municipales, mais hier en particulier. Et vous, monsieur Massucaud, vous avez quand même une approche un petit peu différente. Dans vos discours, vos interventions, vous parlez d'abord de proximité quand vous parlez de sécurité.
Alors, je parle de proximité quand je parle de sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier que la sécurité liée à une ville, c'est essentiellement de la proximité. Il y a un pôle de compétences qui est bien différent entre les compétences étatiques, police nationale pour pas la citer, ou gendarmerie, et les compétences municipales. Et là, je parle des policiers municipaux. Donc, il faut revenir au rôle des policiers municipaux, sachant qu'une loi est en cours d'élaboration. Et dans ce rôle-là, le rôle principal, c'est la proximité. Et je mets toujours deux pans dans mon argumentation sur la sécurité, parce que derrière cette proximité, il y a également un axe, mais qui est essentiel dans notre civilisation, pas qu'ailleurs, dans notre civilisation, c'est tout ce qui est relatif à la prévention. Donc la sécurité est une nécessité de terrain. Si l'on gagne le terrain, nous gagnerons les problèmes de sécurité.
D'accord, tout à fait. Vous faisiez allusion à la loi qui est portée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, pour étendre les prérogatives de la police municipale. Une loi qui a été adoptée au Sénat et qui va donc poursuivre son cheminement à l'Assemblée nationale. Vous, c'est une loi dont il y a certaines mesures qui vous intéresseraient, que vous voudriez reprendre si vous étiez élu, l'utilisation de drones notamment, des choses comme ça. Les contrôles dans les halls d'immeubles, par exemple, qui sera une possibilité offerte aux policiers municipaux.
Tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous pouvons mettre en œuvre dans les règles et compétences de la police de proximité, qui est une police municipale, nous devrons l'utiliser. Il n'y a pas d'éléments ou de conditions que nous ne pouvons pas utiliser. Nous devons à tout prix mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la sécurité. Mais ce ne sont pas les seuls moyens. Hein. Il y a des commissions locales de sécurité. Nous pourrions imaginer un groupement local de lutte contre la délinquance qui aurait dû déjà être mis en œuvre, à mon sens, sur une ville comme hier.
Sous quelle forme ?
Des groupements tels que prévus par les législateurs qui réuniraient procureurs, magistrats, police nationale, préfets, qui permettraient d'envisager la lutte contre la délinquance au niveau local. On a un vrai problème de délinquance, mais on a un problème de délinquance parce que nous n'avons pas les forces nécessaires pour être sur le terrain à toute heure du jour et de la nuit. Et ça, c'est une difficulté. Aujourd'hui, nous devons les mettre en place sur le terrain. Nous devons lutter contre les points de deal qui sont nombreux et qui gangrènent notre ville, que ça soit au centre ou dans les différents quartiers. Et puis derrière, je reviens sur ce que je disais, parce que j'ai toujours deux pans dans la sécurité. La prévention. N'oublions jamais que la sécurité naît de la prévention et de l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Je dis toujours cette maxime de Victor Hugo, mais ouvrons des écoles, nous fermerons des prisons. Ce qui était vrai à l'époque est encore plus vrai aujourd'hui. Si on laisse la délinquance s'installer dans nos quartiers, si on ne met pas le système éducatif nécessaire pour permettre à nos jeunes de sortir de la dépendance délinquentielle, nous allons avoir des vraies difficultés d'avenir. Et donc c'est un cumul de fonctions, proximité, prévention. Mais tout ça revient au même, proximité.
Alors rapidement, il y a un point noir qui est particulièrement soulevé hier. Il y a eu des pétitions, je parle du centre-ville, hein, pétitions de commerçants, des personnes qui témoignent, des femmes notamment, qui n'osent plus sortir seules le soir après 22h. Il y a aussi la présence des SDF en centre-ville, hein, qui a fait beaucoup parler, pas qu'auprès des commerçants. Quelles seraient vos mesures, plutôt dans l'accompagnement, la prévention, la répression ?
Mais c'est la même manière. Déjà, la répression, vous ne pouvez pas faire de la répression sur quelqu'un qui se balade librement dans l'espace public. Ça s'appelle la liberté d'aller et venir.
Oui, à part en cas d'alcoolémie, sur la voie publique,
c'est
des
autre
choses
chose.
Comme ça.
On parle d'infraction pénale. Ouais. Donc, si vous parlez d'une infraction pénale, évidemment, c'est comme pour la délinquance, narcotrafic ou autre. Il faut agir. Non, sur les sans-domicile fixe, il y a vraiment un double axe. Le premier axe, c'est une présence proximité plus nombreuse, et je le redis, nos policiers municipaux doivent être sur le terrain pour permettre de lutter contre celles et ceux qui sont devant les commerces toute la journée à boire ou à faire d'autres choses qui desserrent le commerce même. Mais il y a également l'accompagnement psychologique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société où l'humain doit ressortir ou primer. Et donc cet accompagnement psychologique est nécessaire. On a une détresse psychologique, schizophrénie ou autre, chez de nombreux SDF. Il faut régler ce problème.
Voilà pour la sécurité. Bon, on va revenir aussi au cadre de vie. Ça fait partie aussi du cadre de vie. Hein. La sécurité, on est d'accord, hein, monsieur Massuco. Urbanisme, cadre de vie, on va en parler. Vous avez 3 minutes pour parler de ce sujet. Une première question, Michael.
Voilà, c'est un petit constat. Entre 2014 et 2024, il y a 3320 logements qui ont été construits ailleurs, avec une population qui, au final, avait un petit peu baissé, qui vient un petit peu de reprendre. Comment vous jugez ce bilan? On n'a pas assez construit. Les Hiérois sont allés se loger ailleurs, les jeunes Hiérois notamment.
Alors, le bilan, il faut le juger en fonction des différentes analyses qui ont été faites. Et notamment, on a deux analyses que je trouve majeures dans le cadre de notre municipalité. C'est le contrat de mixité sociale et le plan local de l'habitat. Et le bilan que vous tirez, c'est-à-dire qu'il y a trop de logements, enfin, il y a beaucoup de logements qui ont été créés, aux alentours de 3000, et en parallèle, on n'a logé personne. Puisque nous étions en 2013 55 000 et des poussières, et nous sommes aujourd'hui 55 000 et des poussières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'imperméabilisation de nos sols a été réalisée au détriment du cadre de vie, de la qualité de vie, mais également de notre patrimoine exceptionnel. Mmh.
Alors, la volonté que vous affichez, vous, c'est de retrouver une respiration hein, dans le cadre du plan local d'urbanisme, dans le cadre de l'urbanisation de la commune. Comment vous la concrétisez, cette respiration? Comment vous voulez la porter, la défendre?
Pour la défendre, c'est pas dur. La première chose qu'il faut faire en matière d'urbanisme, c'est modifier le plan local d'urbanisme, alors qui est certes aujourd'hui intercommunal, et il faudra le modifier à l'échelle de l'intercommunalité. Mais on ne peut pas se plaindre, et j'en entends trop, et notamment de mes adversaires qui se plaignent de l'urbanisation massive, alors qu'eux-mêmes ont participé au vote du plan local d'urbanisme, qui permet cette urbanisation. C'est-à-dire que l'urbanisation dépend de la règle, et la règle, c'est le plan local d'urbanisme. Donc, ne nous plaignons pas quand on a participé à mettre en place le système qui nous gouverne aujourd'hui. Donc, il faut une modification stricte du plan local d'urbanisme qui respecte nos espaces naturels, mais également notre retrait de côte. Une loi vient de passer sur le retrait de côte, indiquant qu'il faut le prendre en compte encore plus virulemment aujourd'hui. Donc, il faut respecter la loi, rien que la loi, mais surtout respectons l'identité de notre ville.
Donc vous continuez de construire.
Ah, je ne vous ai pas dit ça. La loi...
Donc les carences, les amendes, on les paye ailleurs?
Mais vous savez...
Par rapport à la loi SRU, hein,
je reviens sur le contrat de mixité sociale. Le contrat de mixité sociale conclut, dans l'analyse qui en est faite, que nous avons trop construit ailleurs et surtout que nous avons mal construit. Donc aujourd'hui, il faut mieux construire. Il faut rénover du logement
vacant. Donc vous continuez de construire?
Non.
Ben si,
il faut mieux construire. Il y a des zones qui méritent construction. Il y a des zones qui ne méritent pas construction. Quand vous construisez sur un espace vert, c'est une imperméabilisation qui est à l'aube des catastrophes naturelles que nous allons créer. Donc, construire, on a toujours besoin de logements. La preuve en est, des habitants hiérois ne peuvent pas encore se loger dans la ville qui les a vus naître ou grandir. Mais par contre, il faut construire intelligemment. Et pour ça, il faut une véritable planification. Je donne toujours l'exemple, on monte un petit peu dans les nuages, avec un drone notamment, pourquoi pas, et de ce drone-là, on fait une analyse cartographique de la ville. Et de cette analyse-là, on pourra en tirer les tenants et les aboutissants qui nous permettent de construire agréablement dans une ville comme hier, mais également de construire de manière éco-responsable. Aujourd'hui, ceux qui disent qu'on ne doit plus du tout construire, ce n'est pas raisonnable. Ceux qui disent qu'on doit continuer comme on le fait aujourd'hui, c'est déraisonnable.
Alors vous parliez du plan local de l'habitat. Il prévoit actuellement, sur la commune de Hyères, un peu plus de 300 logements à sortir par an. Alors, à propos de l'urbanisme et de la construction, la plus grande réserve foncière de la commune à urbaniser, c'est la ZAC des Rougières, qui a beaucoup mobilisé ses défenseurs. Il y a eu plus de 2000 logements, 1000 logements. Le projet de la mairie, aujourd'hui, c'est à peu près 500. Quelle est votre position sur cette ZAC? Faut-il y construire? Faut-il la préserver?
Qui se trouve entre la piscine et le collège Gustave Roy.
Tout à fait.
Alors, cette ZAC des Rougières, j'ai toujours une position claire, puisque j'en faisais partie, donc ma position a toujours été claire. Il faut préserver cette ZAC des Rougières. Certains parlent d'un moratoire, c'est ce que je disais. Pourquoi pas, on pourrait imaginer un moratoire, le temps de réfléchir, de se redonner de la respiration. Mais ça fait déjà longtemps qu'on a réfléchi. Ouais. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'en plein centre-ville de Hyères, on a un lieu exceptionnel qui nous sert de zone tampon contre les inondations, qui pourrait nous servir d'une grande plaine du sport ou de la nature, un peu comme on a dans des villes environnantes. Mais cette ZAC, il faut la préserver. Elle pourrait également nous servir de... Alors, j'appelle ça une coulée verte, mais on pourrait lui donner le nom qu'on veut, la promenade de la mer, mais qui partirait du centre-ville et de manière sécurisée, qui nous amènerait à l'Égade. C'est déjà ce que je défendais lorsque je me suis présenté sur une liste en 2020. C'est pas récent. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est là. Il y aura des concessions à faire, puisque des engagements ont été pris, et il faudra revenir sur ces engagements-là. Ouais. Je crois que ce n'est pas raisonnable de construire dans cette zone-là, avec un espace aussi exceptionnel.
Donc a priori, pas de construction, c'est plutôt votre volonté?
Ma volonté, c'est de préserver l'espace.
Préserver l'espace, oui.
D'accord. Et dans les générations à venir, on aura besoin des espaces de verdure. Ça sera une richesse qui sera bien plus rémunératrice pour les générations à venir que le béton.
On passe au centre-ville, on revient au centre-ville, si vous le voulez bien, monsieur Massucco. Ce thème, commerce, attractivité, centre-ville, vous le dites, le cœur de la ville d'Hyères ne bat plus.
Je le dis et je le pense. Il suffit de s'y balader, je viens de descendre dans vos locaux et je dis et je pense. C'est-à-dire qu'il faut faire le constat, le cœur du centre-ville ne bat plus, il faut redynamiser le cœur du centre-ville. Mmh. Et pour le redynamiser, l'esthétique est bien beau, c'est-à-dire qu'on a fait des travaux, on aime ou on n'aime pas.
Le triangle d'or, avenue Gambetta, De Gaulle et les îles d'or.
Très subjectif, on aime ou on n'aime pas. Mmh. Par contre, il faut dynamiser. Et pour dynamiser, il faut remettre des animations, redonner aux associations de quartiers, de commerçants ou de citoyens engagés dans le centre le pouvoir de donner leur avis.
Les CIL ?
Les CIL notamment. Mmh. Les comités d'intérêt locaux sont des organes de réflexion qui doivent être mis en avant dans le cadre d'une ville comme Hyères. Et donc, quand on a redynamisé le centre-ville, il faut lui redonner un peu de respiration. On a, par exemple, aujourd'hui, un manque de diversité dans les commerces du centre-ville. On a le parcours des arts, c'est une bonne chose, mais il faut diversifier un peu. Il faut peut-être attirer des enseignes qui soient un peu, attractives.
Lesquelles, par exemple ?
Non, je ne ferai pas de publicité mal placée, mais par contre, il y a des grandes enseignes, il peut y avoir des grandes enseignes de sport. On a des enseignes locales qui pourraient imaginer être au centre-ville, tel Natif, qui aujourd'hui ont un rôle chez les jeunes prédominant. C'est attirer des enseignes.
Il n'y a pas d'enseigne vraiment de sport à Hyères.
C'est ce que je vous disais. Il faut sortir de Hyères.
Je ne donne pas de marque, mais il faut sortir de Hyères. Vous parlez de créer un pôle des métiers de bouche dans votre programme.
Oui, exactement. Ouais. Parce que c'est ce que je vous disais sur la diversité. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des zones limitrophes ou un peu éloignées, vous avez toujours une zone des métiers de bouche. Aujourd'hui, on n'a pas de spécialité particulière à Hyères. Il faut lui redonner cette spécialité, lui redonner un label, que nos commerçants aient un véritable label. Le label qui pourrait être production, fabrication hyéroise. Mmh. Mais tout ça doit être mis en place, et c'était le cœur de notre programme. Ce qu'on voudrait, c'est créer un manager de ville. Ce qu'on va faire, c'est créer un manager de ville. Parce qu'aujourd'hui, article Var Matin, hein, M. Martinez, qui était judicieux sur la question, et dans lequel vous écriviez...
Comme toujours, d'ailleurs.
je n'osais pas le dire. Mais dans lequel vous écriviez que les villes qui avaient connu un développement économique avaient toutes mis en place un manager
un
de
manager
ville.
Un manager de centre-ville, oui.
Monsieur Massucco, nous en sommes à 9 minutes 38 secondes. Donc, on tient les compteurs, on est bon là, jusque-là, tout va bien.
Je vous l'ai dit qu'il ne fallait pas me laisser du temps,
mais on
est fini.
On gère le temps pour vous, on est là pour ça aussi. On va aborder encore deux autres sujets avant votre conclusion, la fameuse question de fin. Quelle est votre première décision en tant que maire de Hyères, si vous arrivez à cette fonction et que les Hyéroises et les Hyérois vous élisent? On va parler environnement après le sujet de la santé. très important, Michael, la santé ici à Hyères, avec beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont produites. Hein.
Oui, alors les deux dernières années ont été particulièrement marquées en termes de santé et d'actualité hyéroise. Deux incendies aux urgences à Hyères, un incendie à la clinique Sainte-Marguerite qui a fermé, qui s'est retrouvé devant le tribunal de commerce, qui a été racheté, qui vient de rouvrir, ouais. Qui est en train de monter en charge progressivement. La fermeture du carré Villette. Donc l'actualité hyéroise en termes de santé était plutôt négative. On se rend compte par là que on sait aussi qu'il y a plusieurs milliers de hyérois qui n'ont pas de médecin traitant, voire qui n'ont pas de, de mutuelle. Vous en faites aussi une priorité, hein, mais notamment en termes de centres médicaux. Pour
vous savez, la santé, ça fait partie du bien-être d'une civilisation et d'une ville. Donc je crois qu'aujourd'hui, déjà on peut se féliciter, parce qu'il faut le dire quand c'est bien, de la sauvegarde de la clinique, mais il faut également protéger notre hôpital public, parce qu'on a un hôpital public qui devrait être un hôpital d'excellence et qui connaît malheureusement des difficultés qui ne devraient pas avoir lieu, alors qu'on a le bassin de population qui pourrait être soigné au sein de cet hôpital.
C'est au niveau national aussi, hein. C'est partout en France.
J'entends bien. Ouais. Au niveau national, on a décidé de déshumaniser les hôpitaux publics et d'en faire finalement un business. Moi, je considère aujourd'hui que l'hôpital public doit soigner, parce qu'il n'y a rien de plus noble dans une société que de savoir accompagner ceux qui sont dans la douleur. Sur le reste, la création de pôles médicaux et de maisons de santé, quand vous imaginez, vous parliez de médecins traitants, mais quand vous imaginez trouver un dermatologue sur Hyères. Un cardiologue, ils étaient quatre, ils ne sont plus que trois, je crois. Donc tout ça est nécessaire. On a besoin de recréer des pôles de santé, mais également de décentraliser certains de nos pôles de santé. Parce que vous avez des parties de notre territoire qui sont plus éloignées du centre que de manière raisonnable, c'est-à-dire les îles, les Arbanais. Et on a tous des problèmes médicaux. Donc il faut créer des pôles de santé, protéger l'hôpital public, et enfin, la prévention. Parce que c'est pareil, aujourd'hui on me dit, mais la santé, il faut soigner. C'est comme la sécurité, il faut punir. Non, la santé, il faut prévenir. Et il y a des moyens de prévenir sur les problèmes de santé qui pourraient parvenir. Par exemple, une alimentation saine. Dans le programme, on a prévu de mettre en œuvre des circuits courts en utilisant les producteurs locaux, les agriculteurs locaux.
Pour les cantines.
Qui nourriraient notamment nos enfants, mais également nos personnes âgées dans les EHPAD, si possible. Et tout ça doit être mis en œuvre, parce que si vous avez une alimentation saine, vous êtes moins malade. Et quand je dis ça, je parle tout à l'heure, on parlait des magasins de sport. Le sport, mettre en œuvre une véritable politique de prévention de maladies par l'intermédiaire du sport. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore laisser développer des maladies liées au diabète, au cholestérol, mais également aux problèmes d'obésité qui peuvent parfois être morbides, alors qu'on a tous les éléments pour permettre à nos jeunes d'être sur le terrain à faire du sport.
Alors, le sport, il y a de quoi faire, hein, sur Hyères. Il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup de lieux où pratiquer le sport, notamment la marche, les randonnées, tout ça. On va parler d'environnement, dernier thème que nous allons aborder avec vous, Nicolas Massucco. On va revenir sur ce fameux tombolo, Michael.
Tout à fait. Alors, effectivement, on peut y faire du sport, hein, notamment l'hiver quand il est fermé, du footing, du vélo.
Dimanche après-midi.
Le long du tombolo. Alors, on parle du tombolo ouest. Ça, c'est une question qui revient. Donc, il est menacé par les tempêtes. Hein. Actuellement, là, en cette période, il a été bien abîmé par la dernière tempête.
Ça coûte toujours de l'argent, tous les ans.
Voilà, plusieurs centaines de milliers d'euros pour le restaurer, pour l'été notamment, et pour la réouverture à la circulation. Quelle est votre position sur le tombolo ? Faut-il le protéger, oui ou non ? Faut-il laisser la nature reprendre ses droits ?
Alors, finalement, c'est une équation à deux chiffres. Hein. C'est premièrement, on sauve. Deuxièmement, on laisse la nature reprendre ses droits. Si vous me posez la question à moi, aujourd'hui, ma volonté, c'est de trouver les solutions qui permettent de sauver. Parce que je considère que ce tombolo est un élément exceptionnel qui, au surplus, avait été modifié de la main de l'homme. Mais ça, c'est un autre problème. On pourra en reparler, mais il faudra plus de temps. Et donc, aujourd'hui, il faut sauver. Comment on sauve ? On a encore une fois dans cette ville des décennies de retard. Des études ont été faites sur les études qui ont été faites sur les études qui ont été faites sur les études, des études.
Et on va en faire encore de nouvelles.
Je crois que ce sujet, il faut absolument se mettre en relation. Tout ça est une question de relation, mais tous les sujets, la sécurité, l'environnement, l'urbanisme, mais il faut se mettre en relation avec les organismes étatiques pour trouver une solution rapide pour permettre d'envisager la sauvegarde du tombolo. Par contre, si vous me demandez à moi, mettre des blocs de béton dans la mer, je trouve que c'est un détournement intellectuel d'une pensée des 40 prochaines années à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de créer des ravages écologiques. Et cette digue de béton dont on parle, qui ne reçoit pas mon aval.
Alors on ne connaît pas encore la matière de la digue. Hein.
Voilà, ça serait une digue immergée.
Une digue immergée, on ne parle pas de béton.
A priori, pas en béton.
On ne connaît pas la...
Cette digue de béton dont on parle, et qu'elle soit immergée ou autrement immergée, est pour moi une aberration.
Ouais, voilà. Donc la solution de la digue qui était retenue jusqu'à ce qu'on relance de nouvelles études, à la demande d'ailleurs des services de l'État, hein. Pour vous déjà, ce n'est pas une solution.
Ah mais ce n'est pas la solution. Il n'est jamais bon de changer ou de modifier le cours de la nature. Par contre, il est bon de trouver la solution qui nous permette de trouver écologiquement le moyen le plus stable qui nous permettra de ne pas perdre ce tombolo ouest. Parce que le tombolo ouest pourrait également avoir des répercussions très importantes sur le tombolo est.
Oui, du côté de la CAF.
Et là, on a des habitations également.
Oui, tout à fait.
30 secondes pour nous parler de vos brigades vertes.
Ah mais les brigades vertes, c'est tout simple, c'est comme les brigades incivilité, c'est des brigades de proximité une fois de plus, qui préservent l'environnement, qui préservent le cadre de vie des habitants hiérois, qui mettent fin aux incivilités, qui permettent de maintenir le bon ordre et le bon entretien de la ville, mais on pourrait les allier, tout à l'heure je vous en ai pas parlé, à tout ce qui est intelligence artificielle, caméra d'intelligence artificielle ou autre.
Très bien. Nicolas Massuco, il vous reste 1 minute 5 pour conclure et répondre à notre dernière question. Vous êtes élu maire au soir du 22 mars prochain. Quelle est la première décision que vous prenez en tant que maire, nouveau maire de la ville de Hyères, pour les Hyéroises et les Hyérois?
La première décision, comme je l'ai indiqué, c'est une question extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, en étant élu maire, il y a plein de décisions qui devront avoir cours en matière d'urbanisme, de sécurité, de protection de l'environnement, de développement durable, etc. etc. Par contre, toutes ces décisions-là auront un but commun. Et je parle bien de but commun. C'est de permettre de ramener de la proximité au cœur des débats, de re-rendre à cette ville l'âme humaine qu'elle avait, ce côté cœur. Vous voyez, on était tous rassemblés autour d'un projet commun. Et donc, ma première mesure, c'est de faire en sorte que la jeunesse en général puisse revivre dignement et grandir dans cette ville, mais avec l'aide, l'appui des générations ou des sages, comme je les appelle. Parce que cette ville-là, elle a besoin de retrouver de la cohésion. Elle n'a plus de cohésion, on a besoin de cette cohésion, on a besoin de reprendre des décisions. Et si j'oserais dire, ma première mesure, c'est de ramener de l'intégrité à la politique. Quand j'entends tous les débats qui ont lieu en ce moment, mais il faut arrêter de rigoler, on a des débats dans lesquels on critique ce qu'on a nous-mêmes fait.
Merci Nicolas Massuco. 15 minutes pile poil, 15 minutes et une seconde précisément. Géré le temps.
Ah, vous avez été formidable.
Ah ben, c'est super. Merci Nicolas Massuco d'avoir répondu à l'invitation de Radio Côte Varoise et Var Matin. Michael, on se dit à très vite pour un nouveau candidat ou candidate sur Radio Côte Varoise.